Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de l'identité et du récit des origines, sous le signe de cet indicible qu'on essaie de dire quand même grâce à la littérature. D'où est-ce que je viens? Quelle est la différence entre cet ailleurs et cet ici? Et qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela fait de venir de quelqu'un plus que de quelqu'un d'autre? Est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela écrit un destin? C'est ce à quoi nous essaierons de réfléchir avec deux romanciers en pleine ascension que nous voulions vous faire découvrir, car il faut que vous les découvriez. Lynn Papin, estampillée Nouvelle Sagan, lors de la parution de son premier roman il y a 3 ans et qui publie son 3e livre, comme Riyad Giraud, publié d'ailleurs à l'instar de son compatriote Kamel Daoud aux éditions Barzac à Alger, et en France chez POL. Bonjour Lynn Papin.
Bonjour.
Alors vous avez 24 ans maintenant, c'est ça ?
23.
Ah 23, oui. Oui, je vous vieillis déjà. Vous étiez venu nous parler de votre premier roman L'éveil, qui était paru donc en 2016.
Oui.
Vous aviez 21 ans à l'époque et ce livre vous avait valu la redoutable étiquette de Nouvelle Sagan. Vous avez pris comment ? C'est un compliment mais c'est peut-être un peu écrasant.
Moi, je l'ai plutôt pris comme un encouragement, en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'arriver dans le métier, j'ai envie de dire, ou dans le milieu, en tout cas littéraire, avec autant d'encouragement, c'était une bonne chose. Et c'est ce qui m'a aussi poussée, je pense, à écrire le 2e et puis le 3e. Donc, c'est vrai que c'était vraiment bien, quoi.
Alors, le 2e s'intitulait Tony. C'était chez Stock, hein, comme le premier. D'ailleurs, je rappelle que le premier livre, vous avez valu aussi le prix de la vocation. Et chez Stock aussi, ce 3e livre intitulé Les os des filles, ou plutôt Les os des filles. J'ai envie qu'on entende le S, même si ça ne se fait pas, parce qu'il est question d'ossements. Ce livre qui nous emmène dans le Vietnam de l'enfance de la narratrice, où elle a vécu jusqu'à ses 10 ans avant d'être transportée en France, où le mal-être la ronge, ronge son âme, mais aussi son corps. Et si la réponse, le soin finalement apporté à ce mal-être se trouvait dans un voyage, dans une remontée du fleuve familial, la remontée d'une lignée de femmes dont elle est issue, jusqu'à la grand-mère, bah, qui a tout connu, tout enduré, du communisme à Internet. Alors, qu'est-ce que cela implique, l'exil? Qu'est-ce que cela veut dire, un pays natal? Je vous cite Lynn Papin. Personne ne pouvait comprendre ce que c'était que d'avoir contre sa peau pendant 10 ans un pays et une mère, puis de les perdre soudain sans que rien soit expliqué. C'est ce que dit votre narratrice, écartelée entre le souvenir des rues de Hanoï et la Touraine, où les gens sont froids, peut-être parce qu'ils ont froid malgré leur col roulé. Les os des filles ou les os des filles? Alors, les ossements ou un courant à remonter?
Je pense que ça va ensemble, parce que justement, le livre s'ouvre sur les ossements et sur donc ce qu'il reste après la mort. Et en même temps, c'est aussi autant qu'une interrogation sur la mort, c'est aussi une interrogation sur la naissance. Parce que les os, c'est ce qui traverse la vie finalement. Donc on parle des femmes quand elles perdent les os. Et ensuite, un bébé, ça a des os et puis ça grandit et c'est ce qui reste à la fin. Et donc c'est vrai que c'était vraiment ma question. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre sur la mort et se termine sur la vie. Parce que je me suis posé la question de d'où l'on venait. Enfin, comment vivre et pourquoi vivre en fait. Donc c'est vraiment tout le thème du livre, et c'est pour ça qu'il y a ce jeu de mots, j'ai envie de dire, sur le titre.
Et ce titre, il est venu rapidement, vous l'aviez avant, cette ambiguïté dont vous nous parlez, entre, oui, effectivement, perdre les os et garder les os qui sont au fond de la boîte, d'ailleurs, au Vietnam, on lira tout à l'heure ce passage.
Bah, le titre est venu tout de suite, mais je n'avais pas tout de suite pensé aux os EAUX, en fait. Je pensais vraiment aux os OS d'abord, parce que c'est un thème qu'il y a aussi dans tout le livre, puisque les thèmes du livre sont aussi la guerre, la famine pendant ces années au Vietnam en 45-54, donc les années où ma grand-mère a grandi. Et ensuite, celui de la maladie, de l'anorexie, après l'exil. Donc c'était vraiment un fil conducteur, en fait, du livre. le thème des ossements, enfin des os, quoi.
Avec vous, Riyad Giraud, pour Les yeux de Mansour, publié chez POL. Bonjour, Riyad Giraud.
Bonjour.
Alors, vous faites partie, Riyad Giraud, de cette formidable génération d'écrivains algériens, menés par Kamel Daoud, qu'on adore, voilà. Le fer de lance, mais aussi, je pense, à Adeline Mehdi, à Samir Kassimi, à Samir Toumi. On vous doit un premier roman publié chez Corti, en même temps que Barzakh, hein, il faut dire, je le prononce. Voilà, qui veut dire l'isthme en arabe.
Exactement.
Hein, voilà. Votre maison d'édition algérienne, la même d'ailleurs que Kamel Daoud, oui. Qui a publié votre deuxième livre, qui publie aussi ce troisième livre, mais qui sort en France sous l'étiquette POL. Voilà, POL. C'est votre troisième roman, Les yeux de Mansour. Il se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite. Le narrateur est un Syrien. Il assiste à la décapitation annoncée sur la grande place Al-Safa, hein, c'est ça ?
Al-Safa.
La place de la pureté.
La pureté, exactement.
Voilà, donc on est à Riyad. C'est la décapitation de son ami, de son collègue, de son compatriote, architecte, Mansour Al-Jazairi. Les téléphones portables sont sortis, certains commencent à filmer, on entend les cris de la foule. Alors ça, je voudrais que vous le disiez aussi, ça veut dire coupez-le, coupez-le, et c'est...
Gossoua.
Voilà, donc voilà. Ça va scander d'ailleurs tout le livre. Hein. Coupez-le, coupez-le, que le bourreau fasse son office. Et tandis que le condamné à mort s'avance, que le bourreau se prépare, le narrateur se souvient, il s'appelle Hussein, hein, c'est ça. Il se souvient des événements qui se sont enchaînés pour en arriver là, à ce drame, et il se souvient notamment de la Chevrolet Camaro rouge de Mansour, ancien du lycée français de Damas, avec lui, rejeton d'une famille illustre, puisque Mansour est l'arrière-arrière-petit-fils de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État moderne algérien, guerrier et savant aussi, mystique musulman, mort à Damas en 1883 jusqu'au transfert de ses cendres à Alger en 1965, événement considérable en Algérie, le transfert des cendres.
Oui, que j'ai essayé de décrire justement dans le roman avec ce détachement qui me semblait, parce que j'ai retrouvé un peu les images sur YouTube du président Boumediene qui avait fait rapatrier donc les cendres et qui avait cet air à la fois embarrassé parce que il y avait toujours eu des polémiques sur l'engagement et la reddition de l'émir Abdelkader. Et en même temps, il lui fallait bien construire une mythologie pour fabriquer cet État qui était un ensemble de tribus au départ. Et donc, il fallait créer un mythe, une histoire autour et surtout des statues. Donc, il y a beaucoup de statues de l'émir Abdelkader cabré sur son cheval.
Sur son cheval, et que vous décrivez d'ailleurs, le buveur de vent. Alors, à quoi Mansour doit sa condamnation, si l'on peut dire qu'on doive sa condamnation à quelqu'un, l'expression est curieuse, ou à quelque chose? Eh bien, c'est ce que ce livre, à travers une narration qui avance par cercle concentrique et qui se rapproche peu à peu de Mansour, c'est ce que ce livre va nous apprendre. Un livre qui revisite une grande partie de l'histoire du monde arabe pour mieux méditer, interroger, accuser d'ailleurs aussi ces paradoxes. Dans le soleil aveuglant d'Arabie Saoudite, dans le spectacle des dunes aussi et du sable qui brûle et qui est frappé par le soleil aveuglant d'Arabie Saoudite qui est le lieu et l'incarnation dans ce livre, en tout cas de toutes les contradictions du monde arabe contemporain. Je suis lui, aurait dit Mansour, signant son arrêt de mort ou plutôt son arrêt de vie. Lui qui l'a traversé la vie naïvement, suprêmement, comme s'il était au volant de son bolide rouge, les yeux toujours lumineux, écrivez-vous, des yeux de Mansour qui donne son titre à ce livre. Un livre que vous avez écrit dans un parking.
Un parking, ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ben, en fait, ma fille faisait de la natation.
Les eaux des filles, voilà
les
encore.
Eaux des filles, ouais, les filles toujours dans les eaux. Enfin, bon, je rigole alors que votre texte est émouvant, enfin, est dur. Et,
mais on peut rire. Voilà,
il faut
que la vie soit là. Non, n'est-ce pas, Aline?
Et donc, ma fille faisait de la compétition de natation et donc elle avait 4 séances par semaine de 2 heures par séance. Alors, le temps qu'elle se déshabille, qu'elle se douche, donc ça faisait à peu près 3 heures. Donc, j'avais 12 heures à attendre par semaine dans ma voiture, dans le parking. Et au lieu de tourner en rond, et je me suis dit bon ben écris. Alors qu'avant je n'écrivais qu'au réveil. Et donc
le meilleur moment.
Voilà, je trouvais l'inspiration au réveil. Et je me suis dit, bon, bah, essaye une autre formule et ça a marché.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans vos deux livres, et c'est pour ça aussi que je vous ai réunis, non seulement parce que je les aime, mais parce qu'il y avait aussi des points communs, il y a cette question de l'identité, mais qui est définie par quelque chose, c'est-à-dire soit un lieu, mais plutôt quelqu'un dont on serait censé venir. Quelqu'un ou quelques-uns, la famille vietnamienne de la narratrice chez vous, Lynn Papin, une lignée de femmes. Et du côté de Mansour, votre héros, Ria Giro, le héros familial dont il est l'arrière-arrière-petit-fils, Abdel Kader, le grand héros de la résistance hein, contre les Français, à la fois guerrier et mystique et savant. En quoi était-ce nécessaire, quand vous avez écrit ces romans, quelle était cette nécessité de relier votre héros ou votre héroïne à une généalogie, Ria Giro?
Alors, pour moi, c'est finalement juste un prétexte, parce que c'est l'arrière-arrière-petit-fils de l'émir Abdelkader, mais Abdelkader lui-même tenait son inspiration de Ibn Arabi, le grand penseur musulman, et c'est plus généralement tous ces grands penseurs de la civilisation arabo-musulmane dont le narrateur se sent aussi l'héritier. Donc c'est dans ce sens-là la filiation. C'est par rapport à tous ces penseurs, et tout le questionnement finalement tout au long du roman, c'est que nous ont-ils apporté? Qu'est-il resté de leur message? Et qu'en faisons-nous, en fait?
Et est-ce qu'on a trahi?
Et parce que c'est aussi un roman qui est un peu né d'une révolte. En Algérie, on connaît très peu de choses de l'émir Abdelkader. Alors, on connaît le guerrier. Dans les livres d'histoire en Algérie, on nous parle du guerrier, des batailles. Il y a la polémique sur sa reddition. Mais nous ne connaissons absolument rien du penseur, du philosophe qui était Abdelkader.
Donc c'est un courant de pensée auquel il s'agit de se raccrocher.
C'est un courant de pensée en islam et plus généralement dans cette civilisation arabo-musulmane. Et en islam, c'est le soufisme, c'est cet islam tolérant qui est fait de réflexion, de philosophie, c'est-à-dire tout le contraire de cet islam pratiqué en Arabie Saoudite, qui est le wahhabisme et le salafisme.
Et on le comprend là quand vous le dites aussi, parce qu'on aura le temps évidemment de revenir là-dessus, mais la façon dont vous écrivez, on a l'impression aussi de pensées qui dérivent, mais qui dérivent pour arriver à un point très très précis. On le comprend mieux quand vous l'expliquez.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fonctionne en cercle concentrique qui s'avance vers ce centre qui est justement le parfait milieu de Sahet Safa, c'est-à-dire la place de la pureté.
De la pureté, avec un questionnement aussi sur le terme de pureté. Cette idée de trahison dont parle Ria Giro, qu'avons-nous fait? Est-ce que c'est une question qui se pose aussi quand on est exilé, finalement? Est-ce qu'on n'a pas trahi, en partant, cet endroit d'où l'on procède, ou non?
Moi, je pense pas qu'il y ait cette notion de trahison. Mais enfin, après, ça dépend de quel exil il s'agit, donc ça dépend de quelle manière on est parti. Là, dans mon livre, il n'y a pas de trahison. Mais enfin, vous disiez que c'était un courant de pensée, donc une filiation par pensée. Moi, dans mon livre, je pense que c'est plutôt le corps, en fait. C'est plutôt cette filiation par le corps, et donc vraiment revenir sur les traces, donc sur les endroits où elles ont vécu, où on a vécu, et comprendre vraiment d'où on vient physiquement. Parce que je pense que ça permet de savoir où on va, en fait, quand on sait d'où on vient, tout simplement.
C'est ce que disait Cicéron, voilà, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu resteras toujours un enfant. Et quand il disait un enfant, c'est un être, certes, adorable, mais sans discernement, encore peut-être trop dans le conte. On va poursuivre avec vous, Ria Giro, et vous, Lynn Papin, on est avec vous jusqu'à 18h. On commence avec vous, Lynn Papin, on va plonger dans ces os des filles, ou ces os des filles, je ne sais pas comment le dire. On écoute votre choix musical, vous avez choisi Edith Piaf, « Sous le ciel de Paris ».
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris.
Édith Piaf, Sous le ciel de Paris, c'est le choix musical de Lynn Papin qui publie Les os des filles ou Les os des filles chez Stock. Pourquoi ce choix musical, Lynn Papin?
J'ai choisi cette chanson d'abord parce que tous les événements qui s'est passé à Paris dernièrement m'ont évoqué cette chanson, et aussi parce que par rapport au livre, c'est vrai que c'est un livre où je suis entre Hanoï et Paris. Et tout le parcours, c'est cette réconciliation pour pouvoir vivre en fait à Paris, sans Hanoï, ou en tout cas me réconcilier avec l'un des deux, puisque j'étais fâchée avec les deux. Et donc c'est une chanson de réconciliation.
Oui, vous dites vous, parce que effectivement, je disais narratrice tout à l'heure, parce qu'au fond, d'abord dans un livre, il y a le narrateur ou la narratrice, mais c'est vrai qu'à un moment, un personnage, vous prenez l'avion, enfin vous prenez le personnage prend l'avion et puis on l'appelle Miss Papin. Donc
oui.
L'auteur, on lève toute ambiguïté. Le narrateur, la narratrice, c'est l'auteur.
Oui, et après, c'est vrai que je pense que c'est un roman parce que c'est jamais la vérité, en tout cas, c'est ma version des faits que j'ai écrit dans ce livre. Donc, si j'en écrivais un autre, ça serait pas pareil. Ou si quelqu'un d'autre l'écrivait, ça serait pas pareil. Mmh. Donc, je préfère dire que c'est un roman. Mais...
Ou un autre âge.
Oui,
aussi,
voilà.
Pourquoi
c'est
pas.
Ça.
Alors, c'est vrai, vous faisiez référence, hein, les événements qui sont passés à Paris. Hein, si on écoute, voilà, Piaf, près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Vous étiez à Paris à ce moment-là?
Oui, j'étais vraiment en face de Notre-Dame. Donc. Ouais.
Et vous avez pensé à quoi, justement, vous qui avez été élevé à Hanoï, et puis c'est à 10 ans, hein, que vous avez quitté le
oui,
Vietnam.
Oui, j'ai vécu pas mal autour de Notre-Dame, donc c'est vrai que ça, j'ai pensé à la littérature aussi, j'ai pensé à Victor Hugo, j'ai pensé à l'histoire, et j'ai pensé que des choses qu'on pensait invulnérables, invincibles et éternelles ne l'étaient pas forcément. Donc je pense que ça a fait vraiment... un choc et un écho à beaucoup de gens de manière vraiment profonde, en fait.
Alors, c'est un livre, Ces os des filles, qui nous emmène dans le Vietnam de l'enfance, donc de l'auteur, de votre enfance, Lynn Papin. Vous avez vécu jusqu'à vos 10 ans avant d'être transporté en France, où le mal-être bientôt a rongé l'âme, mais aussi le corps. Moi, je vais parler du personnage, hein,
okay,
plutôt.
Oui, oui.
Et ce personnage se pose une question, se dit que la réponse finalement à ce mal-être est peut-être dans un voyage, dans une remontée finalement du fleuve familial, par un fleuve féminin, hein, d'ailleurs.
Oui.
Il est question des femmes, de plusieurs, d'une lignée de femmes, de mère en fille, et elle le remonte, ce fleuve, jusqu'à ce personnage de grand-mère qui s'appelle Ba, qui a tout connu en très peu de temps, finalement, le communisme, et puis Internet, et le libéralisme parfois sauvage, l'accélération de tout, et en tout cas, c'est l'option qu'elle a choisi de faire, ce voyage. Elle monte dans un avion vers ce Vietnam des origines, mais avant tout, elle monte dans j'appellerais ça aussi un véhicule, au fond c'est peut-être d'ailleurs le plus beau des véhicules, la littérature, qui permet peut-être de façon plus précise, plus ample, plus fine aussi qu'un autre véhicule, de convoquer les souvenirs, la mémoire, des photos aussi, et des mots pour recréer les scènes d'une sorte de conte familial. Je dis ça parce que, je vous cite Lynn Papin, le mot conte, il est présent dans ce livre, c'est page 37. « Voyez comme c'était pauvre. Dans ce Vietnam sous embargo, elles devinrent des femmes, ensemble, toujours sous le même toit. car c'est ainsi que l'on vit là-bas avec sa famille entière. Elles n'étaient pas malheureuses, elles étaient unies, bosseuses, rieuses, osseuses. Elles allaient avoir 20 ans, rencontrer des hommes, avoir des enfants. Le conte se terminerait joliment, car tout est bien, qui finit bien. Elles seraient heureuses et auraient beaucoup d'enfants, oui. Elles ne se quitteraient pas, on pourrait les reconnaître encore de dos, côte à côte. Trois belles grandes filles avec cette chevelure noire de jais qui leur coulait sur le dos et des enfants, soudain, sur les bras. Trois mères, c'est vrai que vous les appelez les trois sœurs H. C'est aussi un conte familial que vous avez voulu écrire ?
Au début, oui. Je pense que tout le début, donc la partie qui commence au Vietnam, dans le village et puis à Hanoï, avec ses trois sœurs H, j'ai voulu, oui, mettre en scène un conte familial, ouais. Parce que je rentre pas non plus dans les détails de psychologie, c'est vraiment au début des faits, en fait. Donc comment ça s'est passé, comment la mère de Ba a d'abord quitté son mari qui était polygame, qui l'a batté, qu'elle change de case dans le village. Ensuite, elle-même a trois filles. Il y a vraiment ce parcours de femme, de chacune, mais avec romancé, en fait. Donc,
Et quand on dit conte, on a tendance à y voir aussi peut-être une simplification, c'est-à-dire aller droit, justement, j'ai un droit à la lignée. Il y a cette dimension-là aussi.
Ouais.
Ils vécurent heureux et voilà. Eurent beaucoup d'enfants. Il y a toujours l'idée de génération, en fait, et de produire d'une génération qui suit une autre.
Oui, et puis dans les contes, il y a aussi... je pense que c'est un moyen de narration que j'aime bien, parce que il y a ce côté fantastique, mais c'est vraiment l'essentiel de la narration, je trouve. Et c'est vrai qu'avant que le livre bascule plus tard...
Bascule, expliquez, Lynn Papin, c'est-à-dire bascule.
Le livre bascule au moment de l'exil, au moment où donc la seconde sœur H et sa fille vont en France. Et c'est là où il y a la rupture, et c'est raconté... d'un coup du point de vue de la petite fille, en fait. Ce qui n'était pas le cas lors de la narration du conte, qui est vraiment un point de vue extérieur. Et je crois que le livre bascule quand la narration passe du point de vue de la petite fille qui s'exile de son pays. Et donc c'est vrai que dans mon livre, j'ai voulu alterner à la fois les points de vue, les narrations, et aussi le je, le tu, le elle.
Et le nous, à la fin.
Et le nous, donc ouais. les personnes, et aussi les styles d'écriture, puisqu'on passe d'un conte un peu extérieur à soudain quelque chose de plus intime et de plus déchiré.
J'aimerais qu'on vous entende lire le début des os des filles, Lynn Papin. On vous écoute.
On enterre les gens dans une tombe à leur taille pendant 3 ans au Vietnam. Puis, ce délai passé... la chair évaporée, on transvase dans un coffret plus chétif ce qu'il reste du corps, les os. Les cimetières sont donc faits de petits coffrets d'os. Ce sont eux qui demeurent singuliers. Le premier cercueil est temporaire, public. Il ne sert qu'à désosser et reçoit, tous les 3 ans, différents morts. C'est un lieu de repos passager. Ensuite, dans l'unique boîte, il n'y aura plus que les os propres, comme si la chair importait peu, modifiable telle qu'elle est le long d'une vie, tantôt fraîche, tendre, lisse, tantôt ridée, malade, tavelée, tantôt douce, serrée, tantôt rêche, distendue, tantôt cisaillée, tantôt... À la fin, il n'y a plus que les os qui s'entrechoquent. Les sentiments de la chair dégoulinant sont passés. L'émotion terrestre est partie. Ne reste plus que les sentiments des os, essentiels. Nous finissons tous ainsi après tout, et c'est doux. C'est doux parce que c'est commun. Il y aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers. Il y aura eu des joies, des rires, des peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des passions. Il y aura eu des accidents, des voyages, des crises, des maladies. Nous aurons été chacun à notre manière déformés par la vie. Il restera les os des humains, ce que nous avons été au minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximum. Maintenant j'ai compris jusqu'à quel point il faut descendre pour aimer sans retour et pardonner sans regard. Jusqu'à cette ultime poche d'os.
Merci Lynn Papin. Donc c'est un extrait des os des filles. Alors, c'est drôle. Vous avez dit tantôt os, tantôt os.
Oui, bah, j'ai fait exprès pour qu'on comprenne bien le terme.
Ouais. On parlait des os avec vous. Alors dans votre livre Riyad Giraud, il est aussi question des ossements. Hein. Je vous cite: que des images terrifiantes l'avaient laissé à terre dans la rue devant un mall et devant des dizaines de personnes qu'il voyait déjà mortes, des morts qui ne constitueraient même pas l'humus de notre terre, de vulgaires ossements secs qui finirait en sable sur cette terre où l'abandon de Dieu me paraissait absolu. Voilà, aussi, image essentielle, celle des ossements,
oui,
aussi, pour vous.
Et d'ailleurs, il y a même un proverbe en islam, en tout cas en Algérie, lorsqu'on vieillit, qu'on atteint l'âge de la retraite, on dit, bon, ben, maintenant, je vais consacrer ma vie à laver mes os.
Ouais. Et c'est vrai que la traduction « laver les eaux », alors si on a le double sens phonétique de l'eau, laver les eaux, alors ça devient ça. La pureté absolue.
Absolue, c'est ça.
Laver l'eau.
Exactement. Et votre texte, Lynn, m'a beaucoup touché parce que quitter Hanoï, moi je l'ai un peu vécu, pas Hanoï, mais par rapport à l'Arabie Saoudite. Et j'étais avec ma fille qui a vécu donc 4 ans à Riyad, et on ne peut plus revenir en Arabie Saoudite parce que il n'y a pas de visa touristique, on ne peut aller à Riyad que si on a un travail, et c'est vraiment un grand déchirement pour moi de ne pas retourner en Arabie, et pour ma fille aussi, voilà, elle aimerait bien revenir revoir l'école où voilà elle a fait ses premières classes. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Votre texte m'a beaucoup touché.
C'est d'autant que ce déchirement, et c'est ce qui fonde totalement ce livre. Qu'est-ce qui vous a décidé, Lynn Papin, si jeune, à entreprendre ce récit mémoriel? Finalement, 23 ans, on pourrait dire que c'est un peu jeune pour non pas raconter ses mémoires, mais entreprendre ce récit des origines.
Bah, en fait, c'est justement, j'avais toujours voulu écrire ce livre, en fait, parce que c'est un livre que j'ai écrit pas tellement pour raconter, mais plutôt pour comprendre même, parce que pendant l'écriture, j'ai compris beaucoup de choses, et c'est vraiment un livre qui a avancé en même temps que moi, j'ai envie de dire. Donc, je savais que j'allais l'écrire un jour. Je disais à un ami, justement, j'écrirai ce livre quand j'aurai 30 ans, et il m'a dit, mais pourquoi? C'est complètement bizarre d'avoir en tête un livre qu'on va écrire dans 10 ans, quoi. Pourquoi est-ce que tu l'écris pas tout de suite? Et donc, à partir de là, j'ai commencé à l'écrire, mais vraiment pour moi, en fait. Et à revenir au Vietnam et à faire ce voyage, parce que c'est vraiment un voyage aussi où j'ai vraiment pris l'avion, je suis revenue chez mon grand-père, dans le village de ma grand-mère, j'ai découvert les anciennes photos, etc. Donc, c'était vraiment un retour, un voyage. Et je l'ai écrit et je l'ai envoyé à mon éditeur en lui disant, je sais pas trop si c'est un roman en fait, je sais même pas si j'ai envie de le publier, mais je vous l'envoie et vous verrez bien. Et en fait, c'est devenu un roman et il est sorti, voilà, beaucoup plus tôt que je l'avais prévu.
Mais c'est important justement qu'il y ait ce mot roman pour vous. Pour vous, ça comptait tant que ça, que ça soit justement rangé. On parlait des boîtes avec les ossements, mais dans une boîte précise, roman ou récit ou autofiction, ça comptait pour vous?
Non, j'aime pas trop les boîtes, mais moi je fais un travail de romancière, donc j'écris des romans, j'aime la littérature, donc c'était vraiment...
Enfin, il y a une littérature autobiographique,
bien sûr.
Confessions de Rousseau, voilà.
Bien sûr, mais je sais pas, j'avais pas envie non plus d'être pour le coup, dans l'autre boîte des récits autobiographiques. Donc, j'avais l'impression que c'était roman, c'était bien pour ne pas être dans une boîte.
Justement, comment vous entendez que le livre soit lu? Parce qu'il y a une photo que j'ai enlevée tout à l'heure là, pour vous passer le livre, sur le bandeau en fait, du livre. Cette photo, j'ai regardé ce que c'était, donc j'ai tourné le livre, j'ai vu que c'était précisé « archive de l'auteur », donc j'ai compris que sur cette photo qui représente... d'ailleurs, je vais vous demander de la décrire, en fait, ça sera beaucoup mieux par vous.
Eh bien, c'est une photo que j'ai retrouvée donc, en allant chez mon grand-père, où il y a ma grand-mère assise, donc elle est encore jeune sur la photo, et elle a ses trois filles, donc les trois sœurs H, et ma mère est tout à droite, donc elles ont, je pense que c'est une photo qui a été prise dans les années 75, je pense, ma mère doit avoir 7 ans, et j'aimais bien cette photo parce qu'il y avait beaucoup de choses dessus, donc il y a à la fois la petite cabane derrière avec la fenêtre, il y a des barreaux, donc on dirait des barreaux de prison, c'est un peu spécial, et puis elles ont... Elles regardent toutes vers le bas, sauf ma mère qui regarde sur le côté. Et il y a une inquiétude un peu, je trouve, sur cette photo. Un dénuement et une inquiétude. Et moi, ça m'a touchée de voir ma mère enfant comme ça. Et donc, c'est une photo que j'ai décidé de mettre à l'avant de mon livre, puisque c'est un récit sur la filiation maternelle. Et là, vraiment, il y a les quatre filles.
Et justement, votre livre, vous entendez qu'il soit lu comme une quête identitaire ou une quête des origines réelles ou comme ce conte dont nous parlions, parce que le fait de mettre justement archives de l'auteur, de mettre le nom de l'auteur dans la narration, Miss Papin, vous allez être en retard, il faut monter dans l'avion. Oui. Et en même temps, les sœurs H, là le nom n'est pas précisé. Vous voulez que la lectrice, le lecteur, le lise comment ce livre ?
Je pense que d'abord, c'est un récit de retour, et donc je mets mon prénom dans le livre, puisque c'est moi le personnage.
Prénom et le nom.
Et le nom. Parce que c'est moi le personnage qui fait le retour. Et en même temps, je pense que quand on se penche sur la vie de ses grands-parents, et on peut jamais savoir la vérité des choses, donc on a sa version et on se fait forcément un conte. Moi, je l'ai écrit du point de vue de la petite fille, mais si je l'avais écrit d'un autre point de vue, ça serait différent. Donc, la partie qui concerne la petite fille, et c'est vraiment un récit plus autobiographique, plus proche de moi, de mes os, j'ai envie de dire. Et l'autre partie sur la vie de mes grands-parents et de ma mère quand elle est petite, je l'écris en conte exprès parce que j'ai un regard plus éloigné. Et après, c'est un livre où les lecteurs qui l'ont lu, en fait, m'ont parlé tout de suite d'eux. Pas de moi, mais d'eux, de leur histoire à eux.
Quel regard vous portez, vous qui avez vécu jusqu'à 10 ans hein, au Vietnam, après vous avez connu une toute autre réalité d'ailleurs qui a joué sur votre âme, sur votre corps, puisqu'un mal-être hein, a commencé à travailler ses os, mais cette chair hein, aussi. Est-ce qu'il y a eu un rapport d'exotisme aussi de vous de cette perception de petite fille exilée qui a grandi sur ce Vietnam? Est-ce qu'on fantasme un peu tout ça par rapport à la documentation à laquelle vous avez eu accès?
Je dirais pas que c'est de l'exotisme parce que en fait mes souvenirs c'est vraiment des souvenirs d'enfant. Donc les fantasmes que j'ai c'est des déformations d'enfant, mais pas de vis-à-vis du Vietnam, mais plutôt vis-à-vis de mon enfance. Et après, ce que j'ai écrit sur le village, etc., c'est à partir vraiment de ce que j'ai vu en y allant l'été dernier. Et donc, il y a pas tellement d'exotisme, mais peut-être une déformation, voilà, de souvenirs de mon enfance, quoi. Ça serait pareil pour mes souvenirs en France, en fait. C'est des choses dont je me souviens, mais avec des yeux d'enfant.
Je disais exotisme, parce que exotisme, exil, hein, dont parlait Riyad Giraud, il y a la même racine hein, au départ. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que l'histoire de la narratrice a beau ne pas être la même que celle de sa mère et de sa grand-mère, qui ont connu la guerre, qui ont connu les privations, des accélérations historiques soudaines, hein, dont la grand-mère d'ailleurs porte les traces. Elle a beau ne pas avoir la même histoire que ces femmes. Elle est née, elle, dans les années 90, mais en fait, elle fait tout. On a l'impression qu'elle fait tout pour s'inscrire justement dans cette lignée aussi de souffrance. Par exemple, elle rappelle qu'elle est née avec un numéro, hein, le numéro 396, dans un hôpital vietnamien miteux, un hôpital où les rats d'ailleurs menaçaient les nourrissons. Constamment, en fait, est rappelé, même quand il s'agit d'elle, le champ lexical de la guerre. Hein, oui. D'ailleurs, ça commence paix, armistice, guerre. La dernière page, d'ailleurs, qui est au nous, hein, collectif, d'ailleurs, qui montre aussi cette volonté de s'inscrire dans le destin aussi de ces femmes, d'être une sorte de... d'être, oui, un peu comme des... Voilà, on parle de compagnons de la libération, ou de compagnons de combat. Il y a ce nous qui porte ça. Voilà, je vous cite, Lynn Papin, c'est devenu facile. J'ai mis du temps à comprendre que l'armistice avait été signé, qu'un jour le clairon avait sonné haut et fort, non pour signifier un combat, mais un cessez-le-feu. Ils avaient cessé le feu. Je n'avais pas remarqué tout de suite, j'avais gardé un peu de guerre en moi. Paradoxalement, parce qu'en fait, cette guerre, elle, il y a la guerre du Vietnam, hein, ou d'Indochine, hein, elle ne l'a pas vécue. Mais on sent qu'elle veut s'inscrire dans cette histoire-là.
En fait, elle veut s'inscrire dans cette histoire-là, plutôt parce que, justement, ce livre, c'est une réconciliation, et un retour, et une volonté de... Au-delà de s'inscrire dans l'histoire avec un grand H, plutôt dans l'histoire maternelle, avec un petit H. Donc c'est vraiment renouer le lien maternel et essayer de comprendre qui est cette mère et qui est cette grand-mère. Et donc vouloir se réconcilier, vouloir se rapprocher d'elle après avoir été éloignée. Et quand elle parle de la guerre, elle parle aussi de sa guerre intérieure, en fait. Et je pense que c'est essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette guerre intérieure, pourquoi elle est tombée malade, pourquoi elle est allée à l'hôpital, en essayant d'avoir la réponse par la guerre de sa mère et de sa grand-mère, en fait.
Ça, c'est ce qui est assez fascinant, d'ailleurs, dans vos deux livres, parce que on est en temps de paix, Hein, on est en temps de paix aussi en Arabie Saoudite chez vous, Riyad Giro. On est en temps de paix au moment de l'écriture du livre, hein, Lynn Papin. C'est plus la guerre d'Indochine, c'est plus la guerre du Vietnam, même si elle est le produit de la rencontre, en fait, des conséquences de cette guerre. C'est-à-dire un Français au Vietnam, puisqu'elle est le produit de l'amour de ces deux personnes et de ces deux continents. La guerre est présente aussi dans les corps. Il s'agit de couper quelqu'un en morceaux, de le diviser en deux. Hein. Vous écrivez Riyad Giro de Mansour, qui est donc condamné à la décapitation à coup de sabre. Et il y a cette guerre. Je disais, voilà, ils ont cessé la guerre, mais j'avais gardé cette guerre en moi. Oui. Dites-vous, Lynn Papin. Et puis c'est aussi deux livres qui sont tendus entre deux époques. En fait, vos deux livres, le Vietnam, l'Indochine, et aujourd'hui. Enfin, je dis deux époques. J'ai parlé de deux lieux. D'ailleurs, c'est intéressant. Et puis Abdelkader, dont il est donc le grand chef de guerre et le grand mystique aussi, dont Mansour est le descendant, hein, puisqu'Abdelkader est son arrière-petit-fils. Et le corps, en fait, vraiment le corps est présent au milieu de cette intrigue, un corps constamment menacé. Diriez-vous, Lynn Papin, que c'est un livre qui parle aussi de la métamorphose des corps, c'est-à-dire par-delà le voyage dans le temps, par-delà le voyage dans les différents lieux, le vrai véhicule, en fait, c'est le corps.
Oui, je pense, parce qu'il y a cette notion de déplacer son corps, donc d'abord du village de la rizière à la grande ville de Hanoï, pour la seconde sœur H, et puis de Hanoï à Tours, ensuite de Tours à Paris. Donc il y a vraiment cette question à chaque fois de bouger son corps d'un endroit à un autre. Et bien sûr, la question du corps est abordée quand la petite fille tombe malade et qu'elle est anorexique et qu'elle donc perd, enfin que son corps se transforme, parce que c'est la transformation du corps de la femme, c'est quand elle tombe enceinte pour la mère, quand il y a toute cette notion de ensuite de vouloir rester enfant, de maigrir et puis à la fois à la fin de retrouver son corps, donc de reprendre forme et de reprendre vie, quoi. Et puis il y a le décès de la grand-mère aussi, donc la mort du corps. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces, c'est vraiment un livre là sur la femme et toute la transformation de son corps, de la petite fille à la jeune fille, à la fille malade, aux sœurs quand elles tombent enceintes et puis à la grand-mère qui meurt. Donc il y a vraiment tous les stades du corps, j'ai envie de dire.
Avec toujours quand même un point commun entre ces différents stades ou ces différents âges ou ces différents états, la maladie, la santé, etc. C'est précisément les os.
Oui.
L'os.
Oui.
L'os, les os.
C'est ça, oui.
Riyad Giro, c'était aussi essentiel de placer le corps au centre de ses yeux de Mansour. D'ailleurs, les yeux de Mansour, voilà. Déjà, on est dans un élément du corps.
Un élément du corps. Alors oui et non, parce que les yeux de Mansour symbolisent en fait un strabisme, un léger strabisme qu'a Mansour et qu'avait l'émir Abdelkader, et qui symbolisait un peu deux façons de penser, une façon assez droite, rigoureuse, rationnelle, et une façon de penser un peu de côté, donc un peu plus spirituelle. Mais ensuite, évidemment, il y a le corps et puis il y a aussi cette réalité du corps. Il y a souvent ce paradoxe de Zénon qui traverse le roman, où à un moment donné... Zénon d'Élée, exactement.
Voilà, le philosophe.
Et il y a ce paradoxe où je vais tendre le bras pour toucher l'autre. Et en fait, pour toucher l'autre, il va falloir que je fasse la moitié du chemin qui me sépare de l'autre, puis la moitié restante, et ainsi de suite. Et mathématiquement, si on poursuit cette suite, on n'arrive jamais à toucher réellement l'autre, puisqu'il y aura toujours un infiniment petit qui nous séparera. Et je me rappelle que lorsque j'écrivais ce roman, il y a ma fille, à un moment donné, elle est venue me parler d'un truc, elle me disait, mais c'est bizarre, parce qu'on est constitué d'atomes, et il y a toujours un espace entre atomes, et donc, quand je te touche, normalement, il y a toujours un espace, un vide qui est entre nous, et pourtant, j'ai cette sensation de te toucher.
C'est joli comme observation.
Voilà.
À quel âge elle vous a fait cette observation?
Oh, elle devait avoir 8 ans, mais elle regarde beaucoup les reportages scientifiques. Mais c'est vrai qu'il y a... à la fois donc cette partie centrale, le corps, mais ce corps véhicule aussi une spiritualité.
Exactement.
Et c'est toutes les interrogations qu'essaye le narrateur de mettre au clair.
On va plonger, oui, les yeux, comme les yeux clairs d'ailleurs de Mansour, on revient aux yeux. On va en parler avec vous, Riad Giraud, Les yeux de Mansour, c'est chez POL. On est encore voilà avec vous et avec Lynn Papin qui publie Les os des filles chez Stock. On écoute votre choix musical, Salabet Leila. Alors le titre, je préfère que vous le disiez, oui, Riad Giraud.
Salabet Leila minni l'aqla veut dire Leila a ravi ma raison. Voilà.
Ouais. Alors on écoute Salabet Leila. Salabet Leila, c'est le choix musical de Riad Giraud qui publie Les yeux de Mansour chez POL. Il est avec Lynn Papin qui publie Les os des filles chez Stock. Vous nous redites le titre complet en arabe, j'arrive pas à le dire.
Salabet Leila minni l'aqla.
Qui veut
donc
dire?
Qui veut dire Leila a ravi ma raison.
Ouais, salabet, c'est?
Salabet, c'est ravir.
Ravir, très bien. Le ravissement, il s'agit d'un ravissement amoureux.
Exactement. Voilà. Alors c'est à la fois profane et sacré, dans le sens où bon, c'est une histoire d'amour donc entre Qais ou Leila, mais c'est surtout sacré dans le sens où à un moment donné, Qais était complètement fou de Leila, on l'appelait Majnoun Leila.
Voilà, Majnoun c'est le fou,
c'est
ça.
Majnoun Leila, et donc il s'était retranché à la Mecque, et un jour on lui a dit mais Leila est revenue te voir. Il lui dit, mais non, il faut surtout pas que je la voie parce que ça diminuerait de mon amour pour Leila. Et donc, ça s'était transformé en amour divin. Elle incarnait cette...
Voilà, le pouvoir de la littérature. Riad Giraud, vous publiez aujourd'hui chez POL, donc je le disais, votre troisième roman, Les yeux de Mansour. Alors, il se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite. Le narrateur est un Syrien. Il assiste à la décapitation annoncée sur la grande place Al-Safa, la place de la pureté, donc au cœur de Riyad. La décapitation de son ami, de son collègue et de son compatriote architecte Mansour Al-Jazairi. Les téléphones portables sont sortis, certains commencent à filmer, on entend les cris de la foule, Gassoua, comment on...
Gassoua.
Voilà, qui veut dire
coupez-le.
Voilà, coupez-le. Et tandis que le condamné à mort s'avance et que le bourreau se prépare, le narrateur, Hussein, se souvient des événements qui se sont enchaînés pour en arriver à ce drame. Et il se souvient notamment, le motif revient, comme d'ailleurs cette phrase, hein, Gassoua, Gassoua, coupez-le, revient aussi la Chevrolet Camaro rouge de Mansour, donc ancien du lycée français de Damas avec lui. Ils sont exilés, finalement, ils ont choisi. Ils sont en Arabie Saoudite. Arrière-petit-fils de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État moderne algérien, guerrier et savant musulman, mort à Damas en 1883. À quoi Mansour doit sa condamnation à mort? Eh bien, c'est ce que ce livre va à travers... Une narration, on en a parlé un peu, qui procède par cercles concentriques. C'est ce que ce livre va nous apprendre. C'est un livre qui revisite toute l'histoire du monde arabe, l'histoire intellectuelle, l'histoire mystique du monde arabe, de ses savants. Vous parlez d'Avicenne, le grand médecin. Vous parlez du philosophe Al-Farabi aussi. Il y a Ibn Arabi, mais Al-Farabi aussi. Pour mieux méditer sur les paradoxes, en fait, de ce monde et ce qui est arrivé à ce monde arabe depuis les espérances qu'il pouvait susciter jusqu'à ce monde arabe contemporain qui est incarné, au fond, par cette Chevrolet Camaro rouge dont on parlait. Alors, Mansour aurait dit « Je suis lui », avec un L capital. signant son arrêt de mort, puisqu'il est condamné pour hérésie, ou plutôt son arrêt de vie, lui qui semble avoir traversé la vie assez suprêmement, naïvement, au volant de son bolide rouge, et qui semble avoir regardé la vie, vous parliez de ce léger strabisme finalement, les yeux clairs, les yeux de Mansour, c'est d'abord un strabisme, comme s'il y avait déjà un problème de réglage de vision.
Oui, strabisme qu'il a hérité de l'émir Abdelkader, dont je parlais tout à l'heure sur, c'est-à-dire une façon de voir les choses de façon rationnelle et une autre façon de façon spirituelle. C'est donc deux expatriés en Arabie Saoudite et comme 60% des gens qui composent Riyad. Se sentent un peu chez eux et toute leur vie tourne autour de la consommation. Et donc Mansour a épargné un peu d'argent et il s'est offert une belle Camaro rouge, donc une voiture luxueuse, sportive, qui coûte voilà, à peu près 100 000 euros. Mais il est atteint d'un mal assez étrange. Il a de violentes douleurs à la tête, donc son ami Hussein l'emmène consulter un neurologue et le verdict tombe. Ses neurones fonctionnent un peu en sens inverse, c'est-à-dire il y a une dégénérescence de son circuit neuronal et il devient un abruti. En gros, il devient un abruti. Mais ce devenir, en tout cas, il croit qu'il est en train de devenir un abruti. Et donc, il se renferme sur lui-même de façon rationnelle et il s'exile grâce à sa Camaro rouge. Il va régulièrement dans le désert, sur les dunes, pour essayer de se reposer. Ça lui fait du bien, il a beaucoup moins de douleurs. En fait, il développe comme ça une autre façon de penser qui est justement cette pensée spirituelle. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à ce roman, je vivais en Arabie Saoudite. Et puis, c'était pas tellement un temps de paix, puisque c'était les révoltes du printemps arabe et le début de cette guerre en Syrie. Et donc, je m'interrogeais justement sur quel est le sens de tout ça. Ces expatriés qui viennent de Syrie, on se met à acheter. Moi-même, j'étais expatrié là-bas. Et donc, toute ma vie tournait entre de molle en molle à acheter ceci, cela. Pour quelle raison, nous, les héritiers de cette grande civilisation arabo-musulmane, en sommes réduits juste à ça aujourd'hui?
Et le strabisme de Mansour, c'est ça aussi?
Et le strabisme, c'est aussi ça, c'est-à-dire cette incohérence entre un souhait de grandeur et en même temps...
Je voudrais qu'on vous entende lire le début, en fait, le tout début, Riyad Giraud, de Ses yeux de Mansour, parce qu'il y a effectivement... Riyad comme lieu de fiction, comme lieu de contraste entre à la fois le plus primitif, c'est la décapitation au sabre, et puis les môles dont vous parliez, les gratte-ciel, c'est-à-dire vraiment un lieu de la contradiction et même de la schizophrénie qui s'incarne dans ces yeux de Mansour. On parlait du strabisme, mais il y a une langue et il y a une construction justement, on disait, par cercle concentrique, comme un flux de conscience, un flux de pensée à la fois très incarné. Et très subtil, en fait, très charnel, très métallique presque, avec cette Chevrolet, et puis toute cette pensée formidable développée par le monde arabe. Et je voudrais qu'on vous entende lire, donc c'est le début des yeux de Mansour.
On attend. Tout Riyad semble attendre. Il est bientôt 10 heures et El Safa Square est déjà noir de monde. Ça ne devrait plus tarder. Tous les commerces alentours ont fermé et les rues se peuplent à la suite d'un 4x4 blanc qui annonce aux parleurs à fond la mise à mort en ce vendredi saint d'un hérétique. Tout le monde s'est rassemblé sur la grande place de Dira, là où la société exécute ses pécheurs. On attend. Il fait chaud, déjà très chaud, et le soleil inonde cruellement les lieux. Une tempête de sable a soufflé durant toute la nuit, en laissant derrière elle en suspension une poussière qui semble multiplier l'éclat de la lumière. Le ciel est blanc. Nous formons une foule de plus en plus compacte autour du seau d'eau et du chiffon que des employés du tribunal ont déposé à l'endroit qu'ils estimaient être le centre parfait, le juste milieu de cette grande place habituellement peuplée de femmes et d'enfants. Ce matin, il n'y a que des hommes, et des vrais, nécessairement. Dans quelques minutes, la lame d'un sabre tranchera le cou d'un corps qui se divisera en deux parties. Il faut être un homme pour voir ça. Il est près de 10 heures et je quitte le square pour remonter les 300 mètres qui le séparent du tribunal, d'où sortira Mansour al-Jazairi, mon ami. Des policiers fendent la foule et forment un cordon pour élargir le cercle autour du seau d'eau et du chiffon. L'un d'entre eux déroule un tapis, ou plutôt une natte, suffisamment grande pour contenir les deux parties séparées. La tension monte, l'impatience, la peur aussi. Les téléphones portables sont sortis, certains commencent à filmer et l'on entend déjà, ici et là, « Gossoh, gossoh, coupez-le, coupez-le ».
Merci Riyad Giraud, les yeux de Mansour chez POL. Est-ce que je me trompe ou les premières lignes font écho aux dernières lignes de L'étranger d'Albert Camus, avec cette idée que pour qu'on se sente moins seul, il faut qu'il y ait beaucoup de gens le jour de mon exécution?
Oui, alors j'ai lu ça il y a pas très longtemps et...
L'étranger, vous voulez dire ?
Non, pas l'étranger, mais cette remarque.
Ouais, on vous l'a faite. Ouais.
On me l'a faite il n'y a pas très
longtemps.
J'ai
pensé à ça, à l'exécution et cette foule d'un homme qui est seul. Quoi.
Et donc je me dis, forcément, ça, ouais. ça a dû être caché quelque part dans
c'est
mon
pas,
cerveau.
C'est pas conscient.
Oui, ce n'est pas conscient.
Parce que j'ai pensé à deux choses en lisant le livre, qui est très ramifié. Évidemment, il y a le courant, toute la pensée arabe dont on a parlé. Mais j'ai pensé à Camus à cause de cette scène-là. Et puis, quand vous dites « il devient un abruti », moi, j'ai pensé à Dostoïevski et à l'idiot. Et c'est-à-dire cet abrutissement, cette idiotie, qui est peut-être une forme de sagesse et une façon peut-être plus clairvoyante de regarder le monde. J'ai pensé au prince Michkine.
Mais alors, c'est un roman principalement sur le problème de la compréhension. Parce que à cette époque-là, donc 2012-2013... finalement, je me sentais moi-même très idiot. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait, ces printemps arabes. Et en même temps, voilà, c'est là, ce sont deux textes que j'ai lus très jeunes et qui m'ont fortement marqué. Donc, cette figure de l'idiot magnifique, évidemment, elle est présente, c'est clair.
Alors, vos personnages, Riyad Giraud, semblent trouver une sorte de nostalgie finalement assez romantique, assez belle, en évoquant justement ces grands hommes, les grands moments de l'histoire arabe, tels que l'histoire d'Abdelkader ou d'un autre Mansour, d'ailleurs très très belle figure que j'ai pu découvrir grâce à vous. Voilà, Mansour Halalaj, donc mystique du soufisme, exécuté. Et vous racontez d'ailleurs son exécution au moment même où on va assister à celle de Mansour, qui avait dit « je suis la vérité ».
Je suis un al-haq.
Voilà. Anna al-Haq, voilà. Comme votre personnage.
Exactement.
Quel sens donner, puisqu'on parlait de généalogie, de transmission, d'origine, à cette généalogie historique aussi mystique que vous donnez à vos personnages? On a l'impression que sans arrêt vous parliez du soufisme, qu'en fait, moi j'ai pensé à la danse des derviches effectivement. Et le texte tourne en fait comme un derviche.
Oui, alors la construction, elle est évidemment circoncentrique. Le prénom Mansour, évidemment, est en lien, en référence à Ibn Mansour al-Hallaj. Et c'est une réflexion qui tourne, et c'est comme un peu des états d'énergie, des électrons qui tournent autour d'un noyau atomique. Et à chaque tour... il gagne une connaissance. En fait, c'est un peu la pensée d'Ibn Arabi que j'essaye de mettre en application, où chaque tour, je gagne un niveau de connaissance. et c'est le principe, et c'est la symbolique des derviches tourneurs, où à chaque tour ou dizaine de tours, ils vont être dans un état de spiritualité un peu plus avancé vers cette union à laquelle ils aspirent, c'est-à-dire l'union à Dieu. Et c'est d'ailleurs malheureusement pour ça qu'est condamné notre ami Mansour dans le roman, puisqu'il dit « je suis lui ». Voilà.
Alors, précisément, vous disiez que vous essayez de mettre ça dans le fond, mais il y a la pensée, mais la chair est extrêmement présente. Il y a des scènes d'amour aussi formidables, d'ailleurs, dans ce livre. Est-ce que, au fond, la leçon de ce livre, si tant est qu'un livre propose une leçon, On en parlait un petit peu en commençant cette émission. Est-ce que ces personnages sont là aussi dans la sensualité qu'ils expriment, dans la spiritualité qu'ils expriment, sensualité et spiritualité qui étaient présentes hein, dans la grande littérature arabe? Est-ce qu'ils sont là pour montrer qu'il y a dans le monde arabe d'aujourd'hui trahison d'un message? Au fond, que l'identité arabe a été dévoyée alors même que votre personnage est accusé d'hérésie par des gens qui disent parler au nom de la vérité.
Alors, donc j'ai écrit ce roman à Alger, je vis à Alger, et j'ai l'impression qu'il y a, depuis quelques années, un reniement de cette culture arabe. De façon légitime, il y a des mouvements berbéristes qui revendiquent une identité, une culture berbère. Alors évidemment, nous sommes des berbères, génétiquement, culturellement, ce qu'on veut. Mais nous sommes aussi des Arabes. Et alors évidemment, il y a eu tout un travail politique qui n'était pas joli, pas beau, pour taire toutes ces revendications autonomistes. Mais ça n'enlève en rien notre culture arabe. Et donc j'ai voulu revaloriser pour l'Algérie cette grande civilisation arabe incarnée par justement l'émir Abdelkader qui était le premier à fonder cet État algérien moderne.
Et avec une place que vous faites aux femmes, un très très beau personnage de Nadine aussi, autre exilée. Et je voudrais qu'on termine cette émission, Riyad Giraud, par déjà une remarque en fait. Riyad Giraud, je pensais à Lynn Papin aussi, qui parle aussi de son père français et de sa mère vietnamienne. Riyad Giraud aussi, il y a le même produit.
C'est parfaitement la même
produit,
chose.
Voilà.
Ouais. Nous sommes frères et sœurs, Lynn.
Voilà.
Donc Riyad Giraud, parce que mon père était français, donc Monsieur Giraud, et voilà. Ma mère est algérienne, donc... J'ai pris le prénom Riyad.
Voilà, la grande synthèse dont nous parlions au début de cette émission. Je voudrais qu'on la termine, cette émission. Je voudrais qu'on cite en fait les mots que vous avez inscrits au fronton de votre roman et qui font la part à une grande mystique. C'est en arabe et c'est en français. Et vous choisissez, vous, pourtant, d'écrire en français.
Oui. Oui, alors j'écris en français parce que mon niveau d'arabe n'est pas... J'ai fait l'école française comme Lynn a fait l'école française d'Hanoï.
Voilà.
J'ai fait l'école française d'Alger. Et donc j'avais un niveau d'arabe qui n'était pas... Mais je me suis, au fil des années, passionné pour cette...
On vous écoute, Riyad Giraud.
Alors je...
En arabe aussi.
D'accord. Ilahi, haddat al-awsat... وسكنت الحركات وخلى كل حبيب حبيبته. Alors, mon Dieu, maintenant que les voix se sont apaisées et que tout est devenu calme, que chaque amant s'est retiré avec son bien-aimé, je me retire avec toi, ô le bien-aimé. Fais que ce retrait durant cette nuit soit pour moi délivrance du feu. Alors c'est un texte de Rabaa al-Adawiya qui était une des premières mystiques musulmanes. Elle habitait Bassora qui était en Irak.
Irak, ouais.
Voilà.
Pas d'exergue chez vous, Lynn Papin?
Non.
Pas besoin de convoquer une figure tutélaire pour être dans une autre généalogie littéraire cette fois-ci?
Non. J'en ai pas eu envie.
Voilà. Merci à tous les deux. Merci Lynn Papin. Merci Riyad Giraud. Je rappelle le titre de vos livres. Les os des filles, Lynn Papin, c'est chez Stock. Les yeux de Mansour de Riyad Giraud, c'est chez POL. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Anna Holweck à la réalisation et Manuel Couturier à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Podcasté pour réécouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Lynn Papin et Riyad Giraud.